Ok, l'essentiel du travail que nous avons à faire durant les Yamim Noraim, c'est-à-dire Kippour, les 10 jours de pénitence et Rosh Hashanah, c'est la prière. Cette prière, elle a une valeur énorme parce que grâce à la prière, on peut vraiment changer la sentence, le statut et le futur, notre futur, le futur du monde. Hein. Tout en parenthèse, une petite parenthèse sympathique. Nous vivons quand même une époque assez bouleversée, bouleversante. On a droit à des catastrophes comme les Twin Towers, après on a droit au tsunami, après on a droit à Katharina, après on a droit à un tremblement de terre au Pakistan, et encore un autre, et c'est pas fini. Donc, tout se joue durant ces 10 jours, et principalement à Yom Kippour. Donc, notre axe est prière. Maintenant, il y a un moment fort dans les prières de Yom Kippour qui revient. D'ailleurs, qui revient déjà depuis 40 jours quand on fait les Slichot. C'est, on rappelle les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté, la dernière fois, il est monté 3 fois 40 jours au Mont Sinaï. À la fin des 40 jours, Dieu lui a dit, je t'enseigne maintenant les paroles que devront dire mes enfants Bnei Israël. Et quand ils m'appelleront, en rappelleront mes 13 attributs de miséricorde, alors je leur répondrai.
C'est la fin du 10e séjour.
C'est la fin du 3e séjour. C'est le jour de Yom Kippour. Parce que ce jour-là de Yom Kippour, où Moshe Rabbeinu redescend avec la bonne nouvelle que Dieu a pardonné, a donné une nouvelle table de la loi, et Dieu après est prêt à réunir le peuple d'Israël en tant que peuple élu, et lui donner le Mishkan, que Dieu va demeurer parmi Am Israël, dans le temple, d'accord. Donc Dieu est avec nous, il a pardonné. Ça s'est fait grâce à la prière de Moshe et grâce à la prière qu'a enseigné Dieu à Moshe, qui est « Rappelle les 13 attributs de miséricorde de Dieu ». On parle de notions extrêmement hautes. Quand on fait le tachlir, quand on fait le tachlir à l'après-midi de Rosh Hashanah, on rappelle ces 13 attributs de miséricorde, mais ils sont dits différemment dans le Navi. Au lieu de dire « Hachem, Hachem, Kel Rachum », comme on va voir maintenant sur les 13 attributs, on dit, comme c'est marqué dans le Navi, dans le prophète, « Mi el kamocha nonse avoam avoam pécha ». On rappelle cela 3 fois. C'est ce que nous disons quand on fait le tachlir pour enlever les péchés. Comme ça, on secoue les habits de façon imagée, comme quand on se débarrasse des péchés. Et avant, chez nous, Sfaradim en tout cas, on lit 3-4 pages des plus grands secrets de la Kabbalah, écrits, c'est du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dévoile comment, c'est comme s'il y avait une figure, d'accord, une barbe, les cheveux, d'accord, c'est dans la divinité, en quelque sorte, ce sont 13 imagés, il y a ces 13 attributs de miséricorde qui sont un flux de bonté de Dieu vers Israël, ou vers qui que ce soit, et lorsqu'on rappelle, on actionne en quelque sorte ces mots-là, alors ça agit vraiment. Un point tel, c'est marqué ici, le Rabbeinu Bachaye, déjà, contemporain du Ramban, un des grands Rishonim, nous dit que celui qui comprend ce que c'est que les 13 attributs de miséricorde de Dieu, et qu'il prie avec intention, avec kavana, alors il est impossible que sa prière revienne vide. À moins qu'il y ait des péchés spéciaux, très durs, qui empêchent. Mais normalement, en tout cas, le jour de Kippour, ça déchire tous les cieux, il n'y a aucune barrière qui peut empêcher si on sait ce qu'on dit. Alors, beaucoup de juifs disent, même en chantant, c'est sympathique, « Kel rachum Hashem, Hashem, Kel rachum Hanun, Rapam, Rachum, etc. » Je ne sais pas ce qu'il dit. Chaval, on va prendre un peu de temps maintenant, on va inscrire, chacun va prendre des notes, parce que c'est compliqué, ce sont des nuances différentes, il faut apprendre après en cours qu'est-ce que ça veut dire, et on le dira plus lentement avec la Kavana, et je vous garantis, ça change tout. Non seulement parce que c'est marqué, mais c'est évident, quand tu comprends ce que tu dis, c'est pas du cocorico, d'accord. On t'a dit quand tu rentres à la maison, chaque jour, tu dis à ta femme cocorico. Cocorico, cote, tu dis les mots, mais c'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, on va t'expliquer. Ça signifie je t'aime, en langue, ça signifie tu es ma chérie. Ah, c'est un autre.
Dimension.
Et elle, quand elle sait que lui, elle comprend toujours ce que ça veut dire cocorico, c'est-à-dire je t'aime, d'accord. Mais elle sait que tu ne comprends pas. Antoine, tu lui dis cocorico. C'est vrai que c'est un mot d'amour. Alors ça a peu de valeur. Nous, on va dire maintenant cocorico à Dieu. Lui sait ce que ça veut dire. Mais il sait que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est, tu joues au perroquet. Dis-moi que tu m'aimes, dis-le-moi. Donc il faut qu'il y ait une intention. Ok. De même, le Rabbeinu Yona, donc Zichon contemporain du Rambam, dit qu'il est interdit, celui qui rappelle Yagmidot sans intention, alors il fait une interdiction, parce que tu es en train d'accéder maintenant des mondes très très hauts. Tu rappelles ces mondes-là comme ça sans comprendre ce que tu dis. Le Rabbeinu Yona, dans Shaaretz Tshuva, dans l'alinéa 581. Dis cela. Ok, alors on va commencer. D'abord, c'est marqué dans la Torah, ces 13 attributs de miséricorde de Dieu sont, on appelle ça Yad Midot, Yud Gimel, c'est 13, Midot, attributs, d'accord, de Dieu, de Rahamim. Yud Gimel, Midot, Yahamim, Yad Midot. Yud Gimel, 13, Midot, attributs, Rahamim, de miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui les enseigne à Moshe, va avoir Hachem à Panav, va écrire. Dieu est passé devant la face de Moshe, Moshe se cachait la face, va écrire, et il a dit, Hachem, Hachem, El Rahum Vechanun, El Chapaim, Vechaset Vemet, Notser Chesed Alafim, Notser Avon, Vesecha, Vechata'a, Venake. Le texte continue après, Loi Nake. C'est une suite. Mais ça s'arrête à Nake, c'est la 13e et dernière attribut des miséricordes. On va expliquer maintenant chacun. Alors les deux premiers, Hachem, Hachem, Dieu, Dieu. Dieu avant qu'on ait péché, Dieu après qu'on ait péché. On aurait pu croire qu'après qu'on ait péché, Dieu nous envoie balader, il ne veut plus nous voir. Non, il est le même Dieu qui nous aime toujours autant, bien qu'on ait péché devant lui. Si bien sûr, on fait tchouva. Si on ne fait pas tchouva, alors on est éloigné. Mais si on fait tchouva, on aurait pu dire, comme quelqu'un qui a péché envers son ami Rouven a fait du mal à Shimon, et après Rouven regrette, il demande à Shimon, pardon, excuse-moi. Shimon dit, ok, je t'excuse. Mais être copain comme on était avant, on ne peut plus être. Tu m'as fait une saloperie, une bonne saloperie, alors j'accepte, je te pardonne, donc nous on parle ensemble, mais l'amour qu'il y a eu entre nous comme avant, plus jamais, c'est impossible. Après ce que tu m'as fait, c'est pas possible. Dieu, c'est différent. Si on fait tchouva, alors il est le même Hachem après qu'il a été avant, le même amour aussi inconditionnel du moment qu'on a fait tchouva. Les commentateurs de Roche posent la question, pourquoi on a besoin du premier Hachem? On a parlé un peu ce matin, je vais répéter ici. Pourquoi on a besoin du premier Hachem? Je veux bien que tu me dises le deuxième Hachem quand j'ai péché, que tu me dises maintenant que si j'ai fait tchouva, tu me pardonnes. Mais pourquoi Hachem avant que j'ai péché? J'ai besoin de miséricorde de Dieu avant que j'ai péché, avant que j'ai péché. C'est normal que Dieu il soit miséricordieux avec moi. Je suis bien, il est bien avec moi, il n'y a aucun problème. Alors on répond, non, parce que Dieu voit en toi déjà les racines du péché. Il voit que tu as des mauvais traits de caractère, tu es un parfait voleur potentiel. T'as pas encore volé, mais tu es un voleur potentiel. Tu es un débauché potentiel. Tu es un coléreux potentiel. Il faut encore que tu aies l'occasion. Maintenant, on va te mettre dans une situation où tu vas te mettre en colère. Hop, là, tu feras le péché. Mais avant, encore rien fait. Alors, on aurait pu croire que Dieu, maintenant, voyant en nous les mauvaises qualités, les mauvais caractères, déjà, il va nous considérer de façon négative. On dit non, Hachem, il est miséricordieux parce qu'il regarde comme tu es au niveau du péché. Pas au niveau du péché potentiel. D'où on apprend cela? De Ishmaël. Ishmaël, lorsqu'il est en train de mourir de soif, Hagar, sa mère, prie, Dieu lui dévoile une source d'eau pour qu'il ne meure pas de soif. Les anges viennent et disent, Dieu, je ne comprends pas. Tu sais très bien, dans quelques centaines d'années, l'Ishmaélite, il y a une histoire, lorsqu'on a été déporté en 586 avant l'ère chrétienne, les Ishmaélites sont venus et ont fait mourir les Juifs de soif. Sur la route de l'exil, ils étaient tout nus et ils étaient tous assoiffés. Et les Ishmaélites sont venus, les Arabes sont venus avec des outres pleines d'eau. Les Juifs ont cru qu'il y avait une bonne eau fraîche dans les outres. Ils ont ouvert comme ça, ils ont mis dans la bouche et il y avait un courant d'air comme ça de putréfaction qui est rentré dans leur ventre et ils ont éclaté tous, ils sont morts comme ça. Donc, les Ishmaélites, ces enfants de Ishmaël maintenant, alors que tes enfants, Bnei Israël, vont crever de soif, ils vont pas leur donner une source d'eau comme tu es en train de faire maintenant, au contraire, ils vont leur donner de l'air putréfié. Alors toi maintenant, tu vas donner à leur père. Leur père, c'est la racine. Si les Ishmaélites sont capables de faire de ça plus tard, c'est qu'ils ont la racine de ces Ishmaélites, elle est déjà dans leur père. La racine du monde d'Ishmaël, c'est Ishmaël, le fils d'Abraham. Donc la racine négative, elle est en eux, elle est en lui. Comment tu vas maintenant, il est en train de mourir de soif, tu lui donnes maintenant une source d'eau? Où est ta justice? Que répond Dieu? Dieu dit maintenant comment il est, tzadik ou racha? Répond des anges, il est tzadik? Ok, Ba'asher Roucham, c'est marqué dans le verset, je lui donne Ba'asher Roucham, comme il est maintenant. Dieu, dans le premier attribut de miséricorde, c'est ça, le premier Hachem. Hachem, Dieu miséricordieux, il regarde l'homme tel qu'il est, sachant qu'il va faire des péchés demain, peu importe, on regarde sa situation actuelle. Premier Hachem, bien que Dieu sait qu'on va faire des péchés, il est miséricordieux. Deuxième Hachem, bien qu'il sait qu'on a fait des péchés, on a fait tchouva, il nous aime comme avant le péché. Quel, c'est le mot qu'on doit prononcer, El, le nom de Dieu. El signifie toujours une force très puissante. Lavan va dire par exemple à Yaakov, j'ai le pouvoir de vous faire du mal, Laban, il a poursuivi Jacob, il a du pouvoir de lui faire du mal, il va dire, Yesh, le El Yadi, la Sotima Chemra, j'ai la possibilité de lui faire, j'ai le potentiel, la force de faire du mal. El signifie fort. Et il est à Ares, les princes, les rois de la terre. Ah, il a un bélier dans lequel on rend avec force dans, pour défoncer une porte, d'accord? Ah, El signifie toujours une force. Ici, on parle de Dieu qui est dans la force pour faire le bien. Parce que, il y a deux aspects. Un aspect par rapport aux forces accusatrices dans le ciel, qui sont nos péchés. Que le peuple juif il fait des péchés, alors l'ange du mal, l'ange accusateur peut venir à Dieu, regarde, ils font ci, il faut beaucoup de force quelque part, au côté positif, côté du chesed, au côté bienfaiteur de Dieu, pour aller et lui clouer le bec, qu'il se taise, et que tout ce qu'ils disent n'ait plus de valeur, que Dieu fasse en sorte de ne pas regarder les péchés. Ça, il faut beaucoup de force. Donc, la force du bien maintenant, de Dieu qui regarde le bien et ne veut pas entendre le mal. Première explication. Deuxième explication. Dieu entend qu'il donne le bien sur terre de façon continue. Continuellement, tu as le soleil, la photosynthèse, la chaleur. Continuellement, tu as de l'oxygène. Continuellement, tu as à manger. Continuellement, tu as des cycles écologiques qui font que la terre, elle tient la nature, d'accord? Tout le monde vante la nature qui est tellement précise, tellement merveilleuse. Cette nature, c'est un chesed de Dieu extraordinaire qu'on vit dans ce monde. Regardez, on n'a ni trop froid, ni trop chaud, ni trop... Il suffirait de... Tu changes quelques millimètres, il y a l'effet butterfly, on appelle cela. Un effet papillon, d'accord? T'as un petit papillon en Australie qui fait comme ça. Tu peux faire un typhon dans Mississippi, d'accord? Dernièrement, il y en a deux papillons qui ont fait comme ça un peu trop en Australie. L'effet par phénomène de ricochet, ça peut faire un typhon dans le Mississippi. Comment ça se fait? Par les systèmes de... ricochet dans la nature. Dieu fait en sorte qu'il n'y ait aucun ricochet négatif, à moins qu'il ait décidé. Mais de façon normale, on voit que la nature, depuis des millénaires, elle fonctionne. Tu as des cycles écologiques qui fonctionnent, on vit très bien sur cette terre, on profite, un profit sans cesse de la bonté, du bienfait de Dieu. Ça, c'est le mot « elle », que Dieu sans cesse donne. Rahum. Rahum vehanun. Littéralement, Rahum, c'est miséricordieux. Hanun, c'est... de mots en français, qui a de la grâce, gracieux. Mais pas dans le terme gracieux qu'une femme qui fait un balai qui est gracieux, la grâce de Dieu, on explique ce que c'est. Rahum, miséricorde, Hanun, grâce. Deux explications. Première explication. Rahum, c'est avant que vienne le malheur. Dieu voit qu'il y a un malheur qui doit arriver. Quelqu'un doit aller maintenant. J'ai entendu juste dernièrement comment c'était cette histoire-là. Il y avait une dame qui a besoin de que son mari lui fasse quelque chose. Ah ouais, belle histoire. Elle, c'est une femme religieuse, mais moitié-moitié. Elle portait le foulard à l'extérieur, mais pas à la maison. Et, hein? C'est permis. C'est bien de porter toujours, mais... Et, elle sort dehors dans son jardin. Et la porte se referme sur elle, claque à l'extérieur. Elle est dans son jardin, les cheveux, non couverts. Donc pour rentrer chez elle, elle peut rentrer, mais elle doit sortir par l'extérieur, faire tout le tour du pâté de maison, et rentrer par l'entrée. Ouais. Elle appelle son mari, elle est dans la banlieue de New York, son mari, il travaille à Manhattan. Elle dit, écoute, j'ai un problème, viens me chercher, parce que je suis dehors, dans le jardin, bloqué, pour sortir, pour passer dans la rue. Bah vas-y, passe, non mais j'ai pas de foulard. Ça va, 100 mètres, tu veux que j'aie maintenant une heure de route dans les bouchons, une heure aller-retour comme ça au milieu de la journée pour aller parce que tu peux faire 100 mètres dehors. Personne ne fera attention, il y a quelques noirs et quelques japonaises, chinois là-bas à New York, il n'y a pas de problème. Non, je ne vais pas faire 100 mètres dehors avec les cheveux découverts. Lui, oui, elle, oui, non, non. À la fin, il craque, un bon mari. Il a fait tout l'aller-retour pour qu'il vienne d'ouvrir la porte et elle a pu comme ça rentrer chez elle. Lui, en attendant, il reprend la voiture pour aller sur Manhattan. Qu'est-ce qu'il apprend en attendant? Son lieu de travail, c'est où? Les Twin Towers se sont écroulés. Ça s'appelle Rahum. Dieu voit que maintenant tu restes dans ta tour, t'es fichu. Alors il amène maintenant une occasion de le sauver. Rahum, avant que vienne le malheur. Et on a tellement de milliers de malheurs qui peuvent nous tomber tous les jours, on n'est même pas au courant. On arrivera au Lamaban, on va demander, on va dire, on va faire le grand hallel, le grand louange à Dieu de tous les miracles qu'on a eus quotidiennement, qu'on ne savait même pas qu'on a eu. Combien de malheurs, combien de bactéries, de streptocoques mortels qui sont passés au bout du nez comme ça, combien de gens ont voulu de trucs terribles pour tomber sur le crâne, et bien au Hachem, Dieu les enlève grâce à la midah de Rahum. Hanoun, c'est une fois que déjà on est dans la mouise, il y a eu le problème qui t'est arrivé, il t'en sort. Combien de fois quelqu'un a des problèmes terribles, et il appelle Dieu, ou même sans appeler Dieu, et Dieu fait un miracle, et hop, l'en sort. Ça, c'est la mida de Hanoun.
Les deux mots, hein?
Non. Rahum, Hanoun.
C'est l'autre, la chantrina, la gatrina.
Alors, deuxième explication. Deuxième explication. Rahum, miséricorde. Miséricorde, c'est réveillé par quelqu'un qui réveille la miséricorde. Je vois un pauvre, misken, un pauvre, il réveille chez moi de la pitié. Il a des maladies, il n'a pas de quoi manger, il a froid. De façon naturelle, j'entends des orphelins, leurs parents sont dans un accident de voiture, ils n'ont pas de quoi. Chaque homme, il a tout à coup un réveil chez lui de miséricorde. C'est la chose, elle révèle la miséricorde, donc tu as envie de donner. Ça s'appelle le midah de rahum, c'est quand tu es déjà dans les problèmes. Ça c'est le midah de rahum. Hanoun vient de la racine en hébreu, hinnam. Hinnam, c'est gratuit. Tu ne réveilles pas maintenant de miséricorde. Tu vas très bien. Dieu te donne gratuitement. Quelqu'un qui réveille la pitié, c'est pas gratuit. Il réveille la pitié. Vraiment, il fait pitié. Donc on lui donne. Ça, c'est mis là de rahum. Hanoun, c'est qu'il donne gratuitement. Rahum, quand on réveille la pitié, tu nous donnes. Hanoun, même quand on ne fait pas pitié. Et que quelque part, on ne devrait pas recevoir, il nous donne gratuitement Hanoun. Oui. Pourquoi? Non, comment tu veux dire par un effet croisé?
La première chose, c'est qu'avant, il les a mis avant le malheur.
Oui, donc, dans les deux explications, ouais, c'est deux explications.
Avec Rahum, dans le deuxième Rahum, Dieu, il nous a conseillé, il agit alors qu'il y a les choses.
Oui, les deux explications sont, comme tu dis, croisées, c'est juste. Erech Apaim. Ça, on va arriver. Qu'en fait, tout le chassad qu'il y a, tout, on va voir ce mida de MS que tu dis maintenant. On va y arriver. Erech Apaim. Erech Apaim, tout signifie en français, en hébreu, Erech Apaim français, patience. Il est patient. Patient. Passion de quoi? Quelqu'un a fait une bêtise, normalement, il devrait couper tout de suite. Dieu est patient. Pourquoi il est patient? Ou pour le bien, ou pour le mal. Patient pour le bien, il attend qu'on fasse tchouva. Il attend. Il fait toute la vie, il attend. Tu as fait des bêtises à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, Dieu il est patient. Il attend qu'on fasse tout de suite tchouva. Ça c'est Erech Apaim. Alors il y en a qui disent, il y a une marloket comment compter cela, il y en a qui disent que c'est deux. On va aller après le Hari. Rabbeinu Hari, il compte comme ça. Il compte que les premiers, deux premiers, Hachem, il compte pas. C'est le nom de Dieu lui-même, on compte pas. Le premier sera Kel. Après deuxième, Rahum. Troisième, Hanoun. Erech Apaim, c'est deux. Ça fait donc quatrième, cinquième. Erech Apaim. Erech Apaim, patient. Dieu est patient. Pour les tzadikim, qu'il fasse tchouva, il attend. On verra que très souvent, quelqu'un à la fin de sa vie, il souffre. Pourquoi? Parce que tu as des factures. Dieu a attendu toute ta vie maintenant en attendant qu'il fasse tchouva. Tu n'as pas fait tchouva, hein? Alors, à la fin des deux, quelques mois avant la mort, les gens ils souffrent beaucoup. Il y a des factures. Dieu a attendu le dernier moment. Tu ne peux pas partir au Lamaba avec les factures, ça c'est terrible. D'accord? Il faut toujours payer ici. C'est des millions de fois moins. On paye beaucoup moins ici que là-bas. Parce que là-bas, c'est le din. Dans le monde supérieur, c'est le dîn, la justice de Dieu. Ici, on vit dans un monde de coton, d'accord, où on ne voit pas la justice de Dieu. Il y a beaucoup de rahamim. Rahamim, c'est faire attendre, justement. Rahamim, Dieu, il attend. Rahamim, patient. Rahamim, il est patient. Pour les rechaim aussi, il est patient. Pourquoi on voit quelqu'un, une ordure? Il mériterait que Dieu l'élimine tout de suite. Pourquoi Dieu le laisse encore en vie? D'abord, il faut faire tchouva, première raison. C'est marqué dans le Midrash Kohelet, c'est marqué il y a 2000 ans. Pour trois raisons, Dieu sait Rechaim vivre, alors qu'il devrait mourir. Un, peut-être il va faire tchouva. Deuxièmement, pour l'enfoncer plus. Ça veut dire qu'il a fait des mitzvot. Maintenant, il a un mérite de ses mitzvot. Dieu lui paye dans ce monde. Comme ça, il arrive au Lamaba, il n'a plus rien. Vraiment, la grosse ordure que Dieu ne veut plus voir dans Lamaba, on lui donne dans ce monde, tiens, prends les bagnoles, prends les filles, prends le cavote, prends la santé, prends tout ce que tu veux. Tu as fait des mitzvot. Tu as droit. Mais là-haut, tu arrives, on t'a tout payé. Ne viens pas me demander maintenant, j'ai fait des mitzvot. On t'a payé dans ce monde. Troisième raison, que de cet homme-là peuvent sortir des tzadikim, comme on a vu des grands tzadikim d'Israël qui sont sortis de grands réchaïm. Par exemple, Shimi ben Gera qui va insulter et lapider David Ameler subit un putsch militaire de la part de son fils Avshalom, et est en train de monter en pleurant le mont des Oliviers avec sa famille, en train de en réfugié du putsch militaire. Vient Shimi ben Gera, qui est un des têtes du Sanhedrin, et commence à le traiter de tous les noms, elle lui jette des pierres et du sable. Le ministre de David, Yoav ben Tsruya, lui dit, laisse-moi, je veux tuer ce chien. David lui dit, non, attends. Dieu lui a dit d'insulter. Ne lui fait rien. Pourquoi Dieu ne punit pas ce Shimi ben Gera, qui aura une longue vie après? C'est rien qu'à l'époque de Shlomo HaMelech qu'il mourra, Shlomo le fils de David. Qui va sortir de Shimi ben Gera? Mordechai ben Yair, ben Kish, ben Shimei, Ishemini. Mordechai Yehudi. Qui va sauver les Juifs à l'époque de Haman, de Esther Amalka. Donc de Mordechai, de Shimei sorti Mordechai. Et c'est marqué dans Chazal qu'il est né, la descendance de Shimei est née après que Shimei ait insulté David. Donc si Dieu l'avait tué tout de suite, pas de Mordechai, pas de Megillat Esther, pas de Purim, plus rien du tout. D'accord? Baruch HaShem, que Shimei a survécu. Donc des fois, quelqu'un, il a une longue vie, on ne sait pas pourquoi, parce que il y a quelqu'un de bien qui descend de lui, comme on voit le cas à Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il voit l'Égyptien frapper le Juif, il sort, il voit ses frères, il est le prince adoptif dans la maison du roi Pharaon, et il voit maintenant comment les Juifs se font frapper par des Égyptiens. Il voit l'Égyptien qui fouette un... Alors c'est marqué, Vaïfen Chovacho, il a regardé à gauche et à droite, il a vu qu'il n'y avait personne, qui est Ish, et il a frappé. Il a dit le nom qui tue, et il a tué l'Égyptien. Alors regarde-moi, Krasa dit, c'est quoi? Il a regardé à gauche, à droite, il a regardé vers qui est Ish, il a vu qu'il n'y avait pas de Ish, pas de personne. Ish, c'est un homme tzaddik. Il a vu qu'il n'y avait personne de tzaddik dans sa descendance. Tu veux tuer maintenant un rachat, ok, lui il est rachat, mais peut-être dans sa descendance, il y a quelqu'un qui doit être qui est tzaddik. Il a vu qu'il n'y avait rien du tout, il a éliminé. Donc Dieu, des fois, laissera un rachat en vie. Tout cela provient de la Mida qui s'appelle patience. Dieu, il est patient. Quelqu'un a fait des malheurs, quelqu'un a fait des choses, il doit payer. Dieu, il fera payer. Nous, on est pressé, d'accord? Parce qu'on ne sait pas qui, quoi, quand je l'ai sous la main, je vais le faire payer. Dieu, il n'y a aucun problème. À la fin, tout le monde arrivera chez lui. Donc, il est patient. Sixième Mida, Verav Chesed. Non, six. Quel premier? Rahum 2, Hanoun 3, Rapaim 4, 5, Rav Chesed 6. Rav Chesed signifie littéralement Rav. Grand, nombreux. Chesed dans le Chesed. Grand dans le Chesed. Chesed, c'est la bienveillance. Le bien. Deux explications. Première explication, qu'on a parlé un peu ce matin. Mavir Rishon Rishon. Melech, quel merveilleux chamé, on est avec Mahatidut, mon chal avonot, à moi, Mahavir, Rishon, Rishon. On va répéter cela sans cesse à Yom Kippour. Mahavir, fait passer premier, premier. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, explique le Rambam comme ça. Quelqu'un, il a des péchés. Il a 1 million de péchés. Et, on va dire comme ça, il a 1 million de péchés et 1 million de mérites. On ne parle pas au niveau du nombre, on parle au niveau de qualité. Parce que tu as un péché qui vaut beaucoup de mérite, un mérite qui vaut beaucoup de péché. Donc on va dire qu'il y a 1 million de billes noires, 1,2 million de billes noires, correspondant à un certain nombre de péchés, et 1 million de billes blanches. Maintenant Dieu, il est Rav Chesed. Il est plus grand dans le Chesed. Il va plus du bon côté. Les Tzadikim, Rechaim, Rechaim, ceux qui sont moitié-moitié, ceux qui sont proches l'un de l'autre, 1,2 million, 1 million. C'est très proche. Là, il penche plus vers le côté maté klapé chesed. Il est plus du côté du chesed, du bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me fait un cadeau. Il enlève le premier péché, il enlève le deuxième péché. Et là, il regarde. Si tu as égalité, 1 million, 1 million, il enlève tous les péchés. Pas que les péchés sont éliminés, mais tu n'es pas inscrit dans le livre des Rechaim. Tu es inscrit dans le livre des Tzadikim. Ah, ok, tu as une facture maintenant, on va te faire payer la facture, il n'y a pas de problème, on t'assure de faire tchouva, etc. Mais tu n'es pas inscrit dans le livre des Rechaim, tu vas mourir rapidement. Tu es inscrit dans le livre des Tzadikim. Comment il fait ça? Il a vu le premier péché, il a vu le deuxième péché, il voit qu'on est un million, et il va m'avir richon richon. Il élimine premier, premier. Le numéro 3, il devient numéro 1, vu que les deux premiers, je les ai éliminés. Alors moi, j'enlève toujours le premier. Il enlève le premier. Le numéro 4 devient premier. On élimine. Le numéro 5 devient premier, on élimine. Comme ça, jusque tout le million, on élimine tout. Tu compris comment ça marche? Ou pas du tout? Par contre, je répète, Quelqu'un, il a un million de binoirs. Un million d'eux. Il a un million de biblaches. Dieu, à cause de cette mida que nous sommes en train d'étudier, il verra chesed, qu'il est plus du côté du chesed, il nous fait un cadeau. Il est sympa. Il enlève la première binoire. Moi, j'ai un truc, je prends toujours la première binoire. Tu l'enlèves. Bon, maintenant, j'ai toujours, j'ai 1001 binoires et 1001 millions de... On va dire 1000, c'est plus facile que 1 million, d'accord. J'ai 1002 binoires et 1000 bi blanches. Alors, la numéro 1, je l'enlève. Reste 1001 contre 1000. Numéro 2, je l'enlève aussi. La binoire numéro 2, je l'enlève. Il en reste combien? 1000. Quand c'est 1000, on devrait dire, ok, t'es égalité, ben tu bouges pas d'où tu es. Non, Dieu, il va faire un truc sympa, il va continuer à enlever. Il va enlever, il enlève tous les premières billes. Les premières billes noires, ils enlèvent. Parce que la troisième devient première. Les deux premières, j'ai éliminé. Donc c'est qui maintenant? Le premier qui arrive, c'est la troisième. Je l'élimine. Qui est le premier qui vient maintenant? Quatrième, je l'élimine. Comme si je tire des balles, d'accord? Tac, dans le chargeur, les balles, elles montent, d'accord? Tu retires une balle, une autre qui vient à chaque fois. Donc, j'élimine maintenant les péchés. J'élimine la 1002, j'élimine la 1001, j'élimine la 1000, j'élimine la 999, qui devient, chaque fois, ça devient celle du haut. J'élimine, à la fin, il n'y a plus aucune binoire. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai 1003? Si j'ai 1003 binoires et 1000 bi blanches, j'enlève 1000, la 1003, reste 1002. J'enlève la 1002, reste 1001. 1001, j'enlève plus. Il y a 1001. Donc, mon vieux, maintenant, t'es plus coupable que méritant, je te remets les deux dans le compte, donc tu es de nouveau à 1003 contre 1000 et inscrit dans la livre de la des Rechaim.
Il n'y
en a que deux.
C'est hyper compliqué, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, peu importe. Nous, on n'est pas censé voir les comptes du bon Dieu. Tu ne les connais pas, tu n'es pas censé voir le bon Dieu. Mais Dieu, il sait. Il nous dit, écoute, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout.
Deux.
Et pour un public, si c'est une communauté entière, jusqu'à trois.
Mais on ne sait pas lesquels. Ouais,
on ne sait pas lesquels.
Hein?
Ouais, on ne sait pas. Oui, il fait le compte pour le mieux. Il est rare, chesed. C'est sa première explication.
Ça,
c'est une mida qu'il a toujours, Dieu. Maintenant, le jour de Yom Kippour, on va réveiller spécialement. Un jour, on peut plus spécialement réveiller ces 13 attributs de miséricorde. Plus spécialement. Deuxième explication de ce Rav Chesed, c'est qu'il va donner du Chesed de façon copieuse. C'est-à-dire, Chesed c'est quoi? C'est donner gratuitement. Pas que je te dois rien. Quelqu'un vient me dire, rends-moi service. Je suis gentil, je suis un bal Chesed, je te rends service. Alors, il me demande, prête-moi ta voiture aujourd'hui. Bon, je la prête. Demain, viens, tu peux reprendre la voiture encore aujourd'hui? Je suis très gentil, je la prête. Un troisième jour, tu peux me prêter ta voiture? Il ne perd rien, hein, c'est moi, il paye l'essence. Bon, je te prends la voiture une troisième fois. Quatrième fois, tu peux me prêter ta voiture? Cinquième fois, c'est une dixième fois. Trois mois, je lui dis, oh, je suis gentil, il ne faut pas exagérer. Je te dois rien. Ça, je suis un bal chesed. Je ne suis pas rav chesed. Rav chesed, c'est copieux. C'est sans limite. Dieu y donne, mais sans limite. Ce n'est pas qu'il va faire des comptes maintenant. Quand tu actionnes cette mida de Dieu, c'est il donne gratuitement, mais sans faire des comptes. Il donne, non-stop.
Est-ce que
ça veut
dire qu'à ce moment-là, on peut demander aux forces?
Vas-y, demande. Je ne sais pas comment vont les comptes. En tout cas, il a cette mida de donner. De donner alors qu'on ne mérite pas. Vemet. Emet, ça c'est le contraire. Emet, ça veut dire vrai. Vrai, vrai c'est justice. Vrai, c'est le septième. Sept. Ve'emet. C'est bien que vous m'ont dit les comptes, parce que le Ben Yisraël dit que c'est bien de les compter quand on dit.
Ah, oui.
Alors Hachem, Kel, Rahum, Vahanun, Erapaim, Vahachet, Ve'emet. Sept. Ok? Emet, vrai. Vrai, c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas. C'est une autre. Vous comprenez que pas toutes les midotes sont les mêmes. Il y en a une qui est comme ci, une qui est comme ça. Elle peut des fois être contraire. C'est pas, Dieu n'a pas le même comportement pour chacun dans tous les cas de figure. Ça plus une autre qu'une autre. En tout cas, celle de Emmet, elle dit comme ça. Elle dit, quelqu'un a fait des mitzvot. Dieu lui doit, pour les mitzvot qu'il a fait, c'est un des très actifs de froid de Maïmonide, Dieu paye pour les mitzvot et paye pour les averot. Donc quelqu'un a fait des mitzvot, Dieu doit lui donner. Regarde, je me suis esquinté pour toi, Dieu, j'ai fait ci, ça et ça et ça et ça. Magui Ali, ça me revient. Dieu, il est vrai et il te donne. Il est juste, il est droit, il te donne ce qui te revient. La question se pose, pourquoi ça rentre dans les 13 attributs de miséricorde de Dieu? C'est pas miséricorde, c'est justice. Normal, j'ai fait. Ça me revient, c'est les règles du jeu. Toutes les règles du jeu sont miséricordieuses. Dieu te doit rien du tout. Tu as fait une mitzvah, il te donne, il te doit. T'as demandé Meletef. En contrepartie, il te donne des millions de milliards du monde supérieur de lumière pour l'éternité. Il te doit quelque chose, il te doit rien du tout. Le fait que Dieu nous laisse faire une mitzvah et nous dit pour la mitzvah que tu fais, je te paye d'après une certaine justice, toute cette justice-là, elle est déjà injuste dans le bien. C'est un grand chesed que Dieu nous fait. C'est comme si maintenant je vais rendre service à quelqu'un, voilà. J'ai un ami, il est pauvre. Je vais lui donner 1000$. 1000$, il ne va jamais les prendre, il aura honte. Alors je lui dis, écoute, viens, rends-moi service. Mon grenier, ça fait déjà 300 qu'il est sans dessus dessous. C'est une semaine de travail, tu me rends, je te donne 1000$. Ça vaut 100$ à ranger le grenier. Mais moi, je lui dis, écoute, pour moi, c'est un truc terrible. Ça prendra, je sais que t'es un type intelligent, tu peux le faire, pour personne, j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire. Va, fais mon grenier, je te prends 1000$ pour ça. Et je t'en supplie de le faire. Lui, il va, il le fait. Il n'a pas reçu les 1000$ avec honte. Il dit, alors, à la fin de semaine, il vient, ok, les 1000$ que tu m'as dit, ils sont où? Tu me les dois, c'est votre contrat. Je te les dois, mais entre nous, d'accord, ça il me le dit, ça je ne vais pas lui dire, mais c'est ce que Dieu nous dit, entre nous, toute la combine que j'ai faite, tout simplement, c'est pour un moyen de te donner. Dieu veut me donner, mais pas gratuitement, pour pas qu'on ait honte, pour pas que ce soit donné gratuitement, pour que je puisse dire, j'y ai droit, ça m'appartient, mais le fait que je puisse dire, ça m'appartient, ça aussi, c'est un grand chesed que Dieu nous fait. Ça s'appelle la mida de Emmet, il est juste, mais c'est aussi un chesed juste.
Parce que maintenant vous avez compté, hein, en fonction du comptage que RR a pas eu, c'est 2.
Oui.
Et vous avez expliqué que 1.
Oui. Oui. Alors si tu veux, on peut dire la tzadiké, vel rechaim. Comme j'ai expliqué. Huitième. Notzer chesed. Notzer chesed. Notzer, c'est comme chômeur. Il garde, se souvient. Il garde le chesed. Quel chesed il garde? Alors ça va avec la neuvième mida, que c'est l'alafim. L'alafim pour des milliers. Dieu garde le chesed pour des milliers de générations. C'est marqué dans le troisième des 10 commandements, dans le troisième des 10 commandements. De ne pas rappeler le nom de Dieu en vain, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Pour qu'elle abonne à Chibaribéim et il ramène le péché sur 3 et 4 générations. 4 générations. Quelqu'un qui a fait un péché, ça peut, si les enfants continuent à faire le même péché, alors quelque part, la facture, elle va dans les 4 générations. Par contre, si on fait une mitzvah, alors le mérite de la mitzvah, il revient pour 500 fois plus. C'est marqué que le chesed de Dieu est 500 fois plus grand que la justice de Dieu. La justice, c'est 4 générations dans le mal. Pour le bien, 4 fois 500, combien ça fait? 2000. C'est la lafim. La lafim, l'alpaim. C'est le pluriel de 1 millier, c'est le minimum 2 milliers. 2 milliers de générations, combien ça fait? Si on prend 20 ans par génération, 40 000 ans. Donc c'est pour l'éternité.
C'est pourquoi t'arrives à 2000, c'est 2000.
Parce que c'est midat, chesed. Le chesed, il est 500 fois plus fort que le din. Donc pour le din, il fait 4 générations. Pour le chesed, il fait 500 fois plus. 500 fois 4, ça fait 2000. Ça, c'est chesed la'alafim. La'alafim pour des milliers de générations. Des milliers, c'est 2 milliers. Ça peut être 3 ou 4, on ne sait pas. Donc, c'est au moins 2. 2 milliers. 2 000 générations, ça fait fois 20 par génération. À l'âge de 20 ans, on commence à avoir des enfants normalement. Ça, c'est fait pour 40 000 ans. Donc, le chesed que nos ancêtres ont fait, il est pour toujours. Ça, c'est midat chesed. Notre chesed. Notre, comme je dis, c'est garder, mais c'est garder intact. On peut garder, la chose se gâte. Garder intact, garder dans toute sa qualité, c'est notre serre, c'est hyper gardé. Notre serre, chesed, il garde chesed qu'ont fait nos ancêtres, là, la fin pour des milliers de générations. Et là, qui est le grand chesed que nous avons chez nos ancêtres? C'est surtout nos ancêtres, d'abord, c'est pas que eux, c'est tous nos ancêtres. Mais surtout avant de traquer Yaakov, et c'est marqué dans le Gaon de Vilna que lorsqu'on rappelle cette mida de notre Sechatel Alafim, bien qu'il est marqué dans Chazal qu'il y a une certaine époque où Zkut Avot Tama, le mérite des ancêtres Abraham et Yaakov, il s'arrête. Ah, ils ont donné 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 1500, 2000 ans, au bout d'un moment, basta, le même peuple d'Israël, il a épuisé le mérite. Ils étaient trois personnes, ils ont bossé comme des dingues toute leur vie, mais tu veux pas maintenant aller, c'est pas infini. Ok, mais pas comme Abraham et Yaakov. D'autres sont venus. Ok, mais Abraham et Yaakov, le mérite, c'est un grand mérite. Ça, c'est marqué que leur mérite est déjà épuisé, terminé. Quand tu vas et tu rappelles notre sœur Hassel Alafim, tu réveilles même ce mérite-là. Ça va me remonter, je vais réveiller le mérite même d'Abraham, Isaac et Yaakov. Notre sœur Hassel Alafim. On n'a pas vu ça. Preuve en est que tu vois très souvent quelqu'un qui est complètement out, hors de la plaque, qui fait tout va. Pourquoi? Alors, ça peut y a deux raisons. Ou lui-même a fait une mitzvah dans sa jeunesse, c'est plus mère cette mitzvah fait qu'il revient tchouva. Ou dans ses ancêtres, il a un grand tzadik, un grand rabbin, qui pleure dans le ciel. J'ai fait de la Torah, regarde maintenant, tous mes enfants, ils sont avec Christine. Il n'y a pas un qui va venir à Yeshiva en Israël, à Yishot Yosef. Oui, t'as raison. Hop, on le prend, et hop, on le voit à Yeshiva. Ok? Notre chesed la la fin. C'était 8 et 9. 10, 11, 12. C'est 2. Ouais, c'est 2. Notre chesed, c'est 8. La la fin, c'est 9. 10, 11, 12. Nosé avon, va fecha, va hata'a. Nosé avon, qui supporte. Qui porte. Nosé, c'est porter, supporter. Avon, le péché. Pécha, le péché. Chata'a, le péché. Trois sortes de péchés. On va expliquer chacun qu'est-ce qu'il est. D'abord, c'est quoi supporter? Donc, on fait un péché, on crée une réalité négative. Cette réalité négative, elle existe. Si elle existe, ça veut dire que Dieu lui donne de la vie. Il y a trois sortes de péchés. Non, c'est Avon, il supporte, il porte. Avon, le péché qui s'appelle Avon. Va Fécha, le péché qui s'appelle Pécha, du mot péché en français, Pécha. Vechata, c'est chet, chet, c'est faute en bon français, d'accord? Et la faute. Supporte le péché et la faute. C'est quoi supporter? Quand on fait un péché, Chas Shalom, on crée un démon, on crée une réalité spirituelle invisible mais qui existe. Elle existe. De quoi elle existe? Comment elle existe? Elle existe pour qu'il y ait de la vie. Qui donne la vie? Dieu. J'ai forcé quelque part Dieu à donner la vie à un démon, à une créature malfaisante, un péché immonde qui sent mauvais. Il est là ce péché, il existe, une réalité de mal. Tu regardes le mensonge qu'il y a dans le monde aujourd'hui, le mal qu'il y a dans le monde, il y a des gens mauvais. Qui donne vie à ceux-là? Les péchés d'Israël. Donc on donne, on oblige Dieu, Dieu qui est bon maintenant à donner de la vie au mal. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? Le mal qu'on a créé, il doit, quelque part, il disparaît en se vengeant sur nous. Ce mal disparaît, tu m'as créé en tant que réalité de mal, moi le péché, maintenant c'est toi qui m'as créé, je te descends, je te tue. Quand je te tue, je disparais, et toi aussi tu disparais. Ça c'est la justice de Dieu normalement. Que si tu as créé un péché, il est mauvais, il veut te tuer. Dieu va l'empêcher de te tuer. Maintenant il faut le nourrir ce péché. Dieu va lui donner la vie, sans cesse. Ça c'est la notion de notre... Il supporte le péché. C'est Dieu qui le porte, Dieu, il accepte de maintenant nourrir une horreur que tu as créée pour pas qu'il te tue. Il te nourrit Hitler, il te nourrit Saddam Hussein, il te nourrit Arafat. C'est colossal dans la bonté.
Ah mais ils font aussi beaucoup de mal.
Ils font du mal, mais ils auraient pu faire
plus de mal que,
ils auraient pu...
que le bien.
Si ce n'était cette mida-là, il n'y aurait plus de monde. C'est un problème pour quelqu'un de ces fous-là de faire sauter la planète. Si Dieu ne va pas limiter le mal, qu'est-ce qu'il fait le mal? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le monde entier, l'empire du mal, un Reich de 1000 ans, un royaume de 1000 ans, éternel dans le mal. Et oui, mon cher ami. Vechata'a. Alors, c'est Avon. Avon, c'est un péché qu'on a fait de façon volontaire. On sait que c'est interdit, et on pêche quand même. Je ne peux pas me retenir. C'est interdit! Je ne peux pas me retenir. Péché. Ça, c'est Avon. Pécha, c'est en révolte contre Dieu. Non seulement que tu sais, mais tu fais exprès. Exprès, il y en a qui aiment. Tu as deux morceaux de viande, un cachère, un taref, les deux ont le même goût, les deux ont le même prix, tu prends exprès le taref, rien que pour montrer que tu es contre. Première explication, deuxième explication de pécha, les deux sont vrais, c'est quand tu fais un péché même pas exprès, mais tu, fais de façon, tu sais que c'est interdit, mais tu le fais de façon suivie, continue, comme si tu l'as éliminé de la Torah, comme une croix dessus. Ça n'existe pas. Ça s'appelle un pécha. Pas exprès. Quelqu'un, je ne sais pas moi, à Shabbat. Tu sais que c'est interdit. Mais Shabbat n'existe plus pour lui. Moi, je roule en voiture Shabbat, je dois aller voir mes beaux-parents. Ah, comme ça. S'il fait une fois, deux fois, c'est encore dans la limite de Avon. Mais si ça commence à devenir une chose qui est habituelle, c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est pris 4 ans, un peu ça, pris 4 ans, tu te défais du joug divin. Dieu, pour ce sujet-là, je fais ce que je veux moi et pas comme tu veux toi.
Pourquoi on dit qu'on a décidé de faire ça alors que la chose qu'on propose, qu'on refait la même chose, on est désensibilisé par rapport à cette chose. La première fois que je suis pas Shabbat,
oui.
J'aurais l'impression qu'il y a un travail.
C'est juste.
Au bout de 10 fois, j'en sens pas.
C'est vrai.
Alors pourquoi on ne peut pas en faire une fois,
c'est marqué dans la voie, quelqu'un veut aller, là-bas on le mène. T'es libre. C'est marqué, celui qui veut se purifier, on l'aide. Celui qui veut s'impurifier, on lui ouvre la porte. On va pas te pousser. Mais tu veux y aller, tu peux y aller. Maintenant, quand on s'impurifie, ça te désensibilise. C'est comme ça que ça marche. On va pas te pousser. On va te pousser à monter. Dieu va aider à monter. Mais tu veux t'enfoncer, on te laisse t'enfoncer. Quand tu t'enfonces, tu t'enfonces. C'est ça la touma, que tu deviens insensible.
Vous avez dit qu'il y avait qui nous entraîne vers la faute, qu'on la sommes tous vers la faute.
Ouais, mais qui t'a dit le premier?
Vous avez dit on nous ouvre la porte, mais on ne pousse pas. Mais même la faute...
Avant, tu veux faire un péché maintenant. Quelqu'un t'a dit d'y aller, on t'a poussé. Avant le premier. Après, en fonction, tu rentres déjà dans le circuit toboggan de la mort. Chata'a, c'est faute, c'est involontaire. C'était le 12e. Non, c'est Avon, c'est 10e. Va faire ça. Non, c'est qui supporte, qui porte. Il supporte, il nourrit. Le Avon. Va faire ça. C'était 11. Va faire ça. Le Chata'a, 12. 12 péchés involontaires. Et on finit avec le 13e, parce qu'on doit aller prier. Venake. Il nettoie. Pour ceux qui font tchouva, et uniquement pour ceux qui font tchouva, il nettoie la faute. Si on fait tchouva par crainte, être effacé, fait tchouva par amour, être transformé en mérite. Venake. Alors, faut apprendre ça, c'est rapide. Si on. Je vais en raccourci. Mais si vous apprenez ça vite, vous pouvez en plus raccourci. Le mieux, c'est pas commencer. Je crois que j'ai donné deux explications. N'en prenez pas les deux, parce que là, vous allez vous embrouiller, vous en prenez une. C'est simplement valable d'après un avis. Venake, qui nettoie la faute. Les fautes. Si on a fait tchouva dessus. Si on a fait tchouva. La suite du verset qu'on ne dit pas, l'oïnake. Et nettoiera pas ceux qui n'ont pas fait tchouva. Ça, on ne rappelle pas. Toutes les fautes sont réparables par la chouva, et si c'est chouva de crainte, c'est effacé, si c'est chouva d'amour, c'est transformé en mérite. Donc plus on s'est enfoncé, tu as fait plus une grosse bêtise, plus t'as un grand matin, un géant de bien. Pardon ?
Pourquoi une chouva par amour ?
Par amour. La femme te dit, descends les ordures. Pourquoi tu descends les ordures ? Parce que tu sais que si tu descends pas, elle va sortir le rouleau à pâtisserie. Bon, ça c'est par crainte. Tu vas dire, ma femme, toi, tu me rends sans les ordures, mais avec plaisir, je t'aime, mais quel bonheur te rendre service, qu'est-ce que je t'aime, hop, tu es sans les ordures, ça, c'est une façon de faire. Bah, au Radonai, le Ramamanvam, mais.